Aujourd'hui, nous voulons avoir une conversation autour de l'évangile du Christ et répondre à la question « Qu'est-ce que l'évangile ?» C'est une question très évidente, car presque tout le monde dans cette assemblée sait ce qu'est l'évangile du Christ. Cependant, comme Martin Luther King l'a dit, nous devons prêcher l'évangile chaque jour, parce que chaque jour, les gens oublient. Donc aujourd'hui ici, nous voulons engager une conversation autour de cet évangile. Romains 1, 16-17, 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile du Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul a écrit cette lettre à l'église de Rome alors qu'il était en prison. Normalement, si quelqu'un est mis en prison, les actes ou crimes commis par cette personne sont probablement des infractions à la loi. Et pour cette raison, on s'attend généralement à ce que la personne ait honte de ce crime. La raison pour laquelle Paul a été envoyé en prison, c'était à cause de l'évangile du Christ. Ainsi, normalement, les infractions commises par quelqu'un en prison devraient être une source de honte pour cette personne. Cependant, Paul dit à cette église qu'il écrit cette lettre depuis la prison, mais qu'il n'a pas honte de la raison pour laquelle il s'y trouve. Dans 2 Timothée 1, 8, LSG. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, selon la puissance de Dieu. Ainsi Paul dit qu'il n'en a pas honte, et vous non plus le devriez en avoir honte. Puis il a continué dans le même verset 16 que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Paul a appelé l'évangile du Christ la puissance de Dieu pour le salut. Il est très spécifique et catégorique. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Cela signifie que la puissance que Dieu utilise pour sauver les gens, c'est l'évangile. Si un homme est sauvé aujourd'hui, ou si un homme sera sauvé à l'avenir, la puissance que Dieu utilisera pour sauver cet homme ou pour sauver une autre personne qui n'est pas encore sauvée, c'est l'évangile. Donc, cela signifie qu'à chaque fois que l'évangile est prêché, la puissance de sauver les hommes est disponible. Au verset 17, il a continué et dit que c'est en lui que la justice de Dieu est révélée de foi en foi. Cela signifie que l'évangile révèle quelque chose. Et ce que l'évangile révèle, c'est la justice de Dieu. La justice signifie essentiellement avoir une bonne position devant quelqu'un. Donc, si tu dis que je suis juste, cela veut dire que j'ai une bonne position devant toi. Cela signifie que lorsque je me tiens devant toi, il n'y a aucun reproche dont tu puisses m'accuser. Ainsi, l'évangile est la révélation de la justice de Dieu. C'est-à-dire que l'évangile révèle quelque chose. Et ce que l'évangile révèle concerne Dieu. Ce que l'évangile révèle ne concerne pas un homme. Cela concerne Dieu. Ainsi, nous pouvons dire que l'évangile est l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu sur quoi? L'histoire de Dieu sur ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Le mot grec pour évangile est euangelion. Cela signifie bonne nouvelle ou joyeuse annonce. Une bonne nouvelle peut prendre différentes formes. Quelqu'un vient de vous envoyer 100 000 PLN. C'est une bonne nouvelle. Peut-être que vous avez postulé pour un emploi et que vous venez d'ouvrir votre courrier après l'église et que vous découvrez que vous avez obtenu le poste. C'est une bonne nouvelle. Ou bien vous êtes étudiant et vous venez de réussir tous vos examens, où vous venez d'être diplômé. Tout cela est une bonne nouvelle. Cependant, l'Évangile n'est pas simplement n'importe quelle forme de bonne nouvelle. Car lorsque vous entendez l'Évangile, les faits de l'Évangile semblent presque impossibles à l'esprit humain. Alors, vous devrez y croire. Donc, plus qu'une bonne nouvelle, l'Évangile est une nouvelle incroyable. Lorsque quelqu'un vous envoie de l'argent, ou lorsque vous obtenez une promotion, ou toute autre bonne nouvelle, vous n'aurez pas besoin d'y croire, parce que l'argent est déjà là. Cependant, pour l'Évangile, il sera nécessaire que vous y croyiez, et c'est pourquoi c'est une nouvelle incroyable.
Ainsi, l'Évangile du Christ, qui est la puissance que Dieu utilise pour sauver les gens, qui est l'histoire de Dieu, est une nouvelle incroyable dont les faits semblent presque impossibles à l'homme charnel, si bien que celui qui l'entend devra y croire. Quels sont donc les faits de l'Évangile?
1 Corinthiens 15, 1, 8, 14, SG 21.
De plus, frères, je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous demeurez. Paul a ouvert le chapitre en disant, « Je vous rappelle l'Évangile ». Ainsi, Paul vient essentiellement nous parler des faits de l'Évangile. Puis, il a mentionné que c'est ce même Évangile qu'il leur a prêché. Il le leur a donc prêché, et il leur écrit à nouveau. Ensuite, il dit que « vous avez aussi reçu ». Recevoir veut dire qu'ils y ont cru. Donc, ce sont des croyants. Puis il ajoute « dans lequel vous demeurez ». Beaucoup de gens pensent qu'après avoir cru à l'Évangile, il y a une autre manière de tenir ferme. Beaucoup pensent que l'Évangile ne doit être prêché qu'aux incroyants, ou seulement le dimanche de Pâques. Mais Paul dit que c'est par ce même Évangile qu'ils tiennent ferme. Cela signifie donc que l'Évangile ne s'arrête pas au fait de le recevoir. C'est le même Évangile que nous recevons, dans lequel nous continuons, ou dans lequel nous demeurons.
Deux, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Il a de nouveau affirmé qu'ils sont sauvés par l'Évangile. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. 3. Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai moi-même reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ensuite, il a abordé le premier fait de l'Évangile. Il a dit, « Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai moi-même reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Le premier fait de l'Évangile est que Christ est mort pour nos péchés. Le fait que Christ soit mort signifie qu'il est ou qu'il était un homme. L'affirmation de Paul selon laquelle Christ est mort pour nos péchés signifie que Christ était en forme humaine. Christ n'est pas mort en tant que Dieu parce que Dieu ne peut pas mourir. Christ est mort en tant qu'homme. Dans 1 Jean 4:2-3 LSG, Jean l'a confirmé en disant « À ceci vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. »
Ainsi, lorsque Paul dit que Christ est mort, il affirme l'humanité de Christ.
Vous savez, une chose sur laquelle beaucoup de gens nous attaquent, en tant que croyants en Jésus, c'est d'affirmer que Jésus est Dieu. Certaines personnes diront, Comment pouvez-vous dire que Jésus est le Fils de Dieu et en même temps dire qu'il est Dieu? S'il est le Fils de Dieu, Dieu a-t-il une femme? Ensuite, lorsque vous leur demandez, Dieu est-il tout-puissant? Ils répondent, oui. Tout-puissant signifie que je peux être ce que je veux être. Donc, s'il est tout-puissant, pourquoi ne pourrait-il pas devenir un homme? En réalité, l'expression « Fils de Dieu » est un langage biblique. Ce n'est pas « Fils de Dieu » comme dans notre anglais courant. « Fils de Dieu » ne signifie pas l'enfant de Dieu ou le petit garçon de Dieu. « Fils de Dieu » est l'expression utilisée pour désigner l'amalgame de la divinité avec l'humanité. Lorsque la divinité prend domicile dans l'humanité, c'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Jean l'a dit de cette manière, Jean 1:12 LSG, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ainsi, quand un homme reçoit Dieu, la divinité, cette union entre cet homme et Dieu est ce qu'on appelle « Fils de Dieu ». Jésus l'a exprimé ainsi, Jean 14:23.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Puis, il a mentionné que sa mort est selon les Écritures. Cela signifie que sa mort est l'accomplissement d'une prophétie. Dans Jean 5:39, LSG, Jésus a dit aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures sont son témoignage. »
Dans Jean 1:45, LSG, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Moïse et tous les prophètes ont écrit à son sujet. Cela signifie que si vous lisez les livres de l'Ancien Testament ensemble, ils parlaient tous de lui.
Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a ensuite mentionné qu'il a été enseveli, et c'est là le deuxième fait. L'ensevelissement est une affirmation essentielle pour empêcher les gens de dire que le corps a été volé. Il s'agit donc d'une preuve évidente qu'il a bien été enseveli. Il n'est pas resté sur l'arbre après la crucifixion. Il a été enseveli. Puis le troisième fait, qui est le plus important, c'est que le troisième jour, il est ressuscité. Il a encore mentionné que la résurrection est aussi l'accomplissement d'une prophétie. Cela signifie que lorsque vous lisez les Écritures ensemble, Moïse et les prophètes ont parlé de ce fait. La résurrection est l'un des faits les plus discutés entre différentes religions. La nature surnaturelle de cet événement le rend difficile à croire pour certains. Paul ne s'est pas arrêté là. Il a dit, et qu'il a été vu par Céphas, puis par les 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres.
8 enfin, après tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à un avorton.
Il a maintenant mentionné que des gens l'ont vu lorsqu'il est ressuscité. La résurrection ne s'est pas produite dans un coin isolé. Elle n'a pas eu lieu sans que les gens le sachent. Maintenant, au verset 6, il a dit qu'il a été vu par environ 500 frères. Ensuite, il a ajouté que la plupart de ses frères étaient encore vivants lorsqu'il écrivait. C'est comme si Paul disait, « Vous pouvez vérifier la véracité de la résurrection. Les témoins existent. Le fait de la résurrection, c'est la victoire du Christ sur le péché et la mort. Mon frère aîné et moi étions en train de discuter avec un oncle à propos de l'Évangile.
Il a alors demandé, « Comment savez-vous si ce dont vous parlez est réellement arrivé ?» Et j'ai répondu, « Tu crois que ton arrière-grand-père était le premier roi de notre village ?» Et il a dit oui. J'ai alors demandé à nouveau, « Étais-tu là ?» Il a dit non. J'ai encore demandé, « Comment l'as-tu su ?» Il a répondu que les personnes qui étaient là le lui avaient raconté. Et j'ai dit que c'était la même chose pour cela aussi. Les personnes qui en ont été témoins nous l'ont transmis. Lorsque Jésus était sur terre, il guérissait des maladies et des infirmités, il chassait des démons, il accomplissait toutes sortes de signes et de prodiges. Un signe en soi n'est pas une finalité, ce n'est qu'un moyen en vue d'un but. Les signes sont simplement des indications qui pointent vers l'essentiel. Au milieu de tous ces miracles, il y a eu une agitation et les gens voulaient qu'il soit crucifié. Ils l'ont arrêté et l'ont crucifié. Sur la croix, ils ont commencé à se moquer de lui. Dans leur esprit, ils pensaient l'avoir eu. Mais en réalité, il se passait bien plus qu'ils ne l'imaginaient. Ils pensaient l'avoir eu, mais en réalité, Jésus était en route vers le quartier général du diable. Il est allé au QG. Il a quitté les signes pour aller affronter le supérieur au QG.
L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a exprimé ainsi dans Hébreux 2, 14 à 15, LSG 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a participé également, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, 15, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
Par sa mort, il a vaincu la mort. Il a écrasé le péché. Il a écrasé la mort. Il a vaincu celui qui détenait le pouvoir de la mort par sa propre mort. Il pensait l'avoir eu, mais en réalité, c'est lui qui a atteint le supérieur des démons au quartier général.
Paul l'exprimera ainsi dans Colossiens 2, 15, LSG. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Désarmé, c'est comme leur ôter leur pouvoir. Par la mort, il a remporté la victoire sur le diable. Puis, trois jours plus tard, il est ressuscité des morts. Paul l'a dit ainsi, Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Cette chose qui tenait les hommes captifs, c'est-à-dire le péché et la mort, celui qui avait le pouvoir sur la mort, il les a menés captifs. »
Voici les faits de l'Évangile, et c'est dans ces faits que réside la puissance qui sauve les hommes. Quiconque croit en ces faits est sauvé. C'est la puissance de Dieu qui nous sauve. Cette personne est transportée du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Cette personne a la vie éternelle.
Jean 3, 16, LSG. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 17, 3, LSG. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 3, 36, LSG. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui.